Bonjour.
Le retour de Donald Trump plonge-t-il notre économie dans l'inconnu ?
De manière indirecte, oui. Donald Trump a été élu sur le combat contre l'inflation aux États-Unis, mais toutes les mesures qu'il met en œuvre sont de nature à augmenter l'inflation. Il met des barrières tarifaires, il baisse les impôts, il augmente le déficit budgétaire, l'endettement public, et donc c'est de nature à donner trop d'argent à l'économie américaine, donc à faire augmenter les prix. D'autre part, il veut maintenant un dollar faible, mais le dollar s'est renforcé, notamment par l'attraction qu'il a créée au niveau mondial. Donc c'est une somme de chaos, une somme de contradictions. Ça a eu un impact sur la bourse américaine, mais ça va avoir un impact naturel sur nos économies. Et un exemple très clair et très immédiat, c'est que nous allons devoir réarmer l'Europe. On parle du fameux plan de 800 milliards d'euros sur 4 ans. Les Allemands ont décidé d'augmenter l'endettement public. Or, nous bénéficions en Europe de taux d'intérêt bas parce que les Allemands étaient plutôt précautionneux en matière d'endettement public. Tout d'un coup, les taux d'intérêt montent. C'est mauvais pour la bourse. Et donc, de manière indirecte, ça a des impacts. Ce n'est pas bon pour l'économie mondiale. Et de manière globale, les fluctuations de Donald Trump sont de nature à enlever la prévisibilité des paramètres macroéconomiques. Et le monde économique a besoin d'un certain niveau de prévisibilité, évidemment.
Alors, on va y revenir, mais c'est vrai que chaque jour apporte son lot d'annonces un peu choc, de changements et d'incertitudes. On va prendre la suspension de l'aide à l'Ukraine. En quoi elle aura des répercussions très concrètes sur notre portefeuille?
Mais ça va avoir des répercussions gigantesques, parce que ça veut dire que nous avons vécu pendant trop longtemps sous la protection militaire et nucléaire américaine. Aujourd'hui, les choses ont changé. On sent bien que les États-Unis se mettent d'accord avec la Russie contre l'Europe, que nous serons maintenant nus par rapport à un agresseur éventuel. Ça veut dire qu'on va devoir, malheureusement et tristement d'ailleurs, réarmer nos économies et donc divertir une partie de ressources financières qui auraient pu être utilisées à des buts, on va dire, plus humanitaires ou plus sociétaux, vers la défense. Et ces fameux 800 milliards d'euros, c'est important parce que 800 milliards d'euros sur 4 ans, ça représente le montant annuel que Draghi avait préconisé comme étant le montant nécessaire pour apporter de l'innovation à nos économies. Donc il va y avoir un changement d'affectation de fonds extrêmement important et ça va bien sûr faire augmenter les taux d'intérêt, ça va déséquilibrer les finances publiques. Quand en Belgique, on dit qu'on a besoin de 12 ou de 18 milliards par an, alors qu'on est à 8 milliards maintenant, pour atteindre 2 ou 3% de notre produit intérieur brut pour réarmer la Belgique, et c'est un montant absolument colossal. Ça veut dire de l'endettement public, mais peut-être de nouveaux impôts et certainement des dépenses qui vont être modifiées au niveau belge.
Mais si on investit donc dans la défense, on ne peut pas l'investir ailleurs. Quels sont les principaux secteurs qui vont en pâtir?
Mais je crois que tous les secteurs, c'est le secteur non marchand, je crois, qui va en pâtir, parce qu'il va y avoir des grandes réallocations au niveau belge. Maintenant, dans le domaine industriel, on parle de la création éventuelle de 8000 emplois par ce réarmement, ce qui veut dire que certaines entreprises qui étaient un peu moribondes vont pouvoir retrouver un peu d'activité, notamment dans le domaine de l'acier, mais ça ne va pas bouleverser une économie, parce que structurellement, nos économies ont été désindustrialisées, et de toute façon, nous ne sommes pas en Belgique un grand opérateur en matière militaire. Nous avons bien sûr les FN, donc il y aura des emplois qui vont être créés, mais pas dans un but, on va dire, de prospérité collective.
Alors comment retrouver un peu de gras, entre parenthèses, alors que l'heure est aux économies? L'État devra vendre certaines participations qu'elle a dans des institutions, les bijoux de famille, comme on dit?
Oui, l'État pourrait vendre sa participation dans BNP, l'État pourrait vendre sa participation dans Proximus, l'État devrait par contre peut-être renationaliser la Poste, mais ça, ce sont des montants qui sont ponctuels, ce n'est pas structurel. Or, si on veut réarmer l'Europe, c'est un horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce qui veut dire que ça va être d'abord financé par l'endettement public, et donc toutes les balises qui avaient été imposées au niveau européen en matière de réduction du déficit budgétaire et de l'endettement public vont être remises en cause, et d'ailleurs, ce sont les Allemands qui hier l'ont annoncé.
Autre impact, le coût de l'énergie, quand on sait que le principal pays exportateur de pétrole vers l'Europe, ce sont les États-Unis, il faut s'attendre à une augmentation de prix.
Peut-être pas, parce que d'abord, on ne sait pas quelles seront les nouvelles réalités énergétiques avec la Russie. On parle, par exemple, de la réhabilitation de Nord Stream 2, qui est en fait ce fameux conduit qui permettait d'avoir du gaz russe. Mais les Américains vont certainement négocier des accords commerciaux avec l'Europe, moyennant le fait qu'on utilise leur gaz liquéfié, et on sait qu'ils sont aujourd'hui exportateurs nets. Donc je serais moins inquiet par l'aspect énergétique que par l'aspect militaire.
Les taxes douanières risquent de plomber les affaires, les échanges notamment. C'est le début d'une autre guerre, une guerre commerciale.
Ah oui, c'est le début d'un changement complet de paradigme, parce que depuis une quarantaine d'années et depuis 20 ans, depuis que la Chine est rentrée dans ce qu'on appelle l'Organisation mondiale du commerce, l'idée c'était, et c'est toujours, de baisser les barrières douanières pour faciliter le commerce multilatéral. Quand on met des barrières douanières, ça donne un soulagement temporaire, c'est-à-dire qu'on protège l'industrie locale, domestique, comme aux États-Unis, au détriment des importations. Mais malheureusement, à moyen terme, c'est toujours néfaste, parce que ça fait augmenter les prix, ça rend une économie moins efficace, moins confrontée à la concurrence. Et si tous les pays commencent, comme dans les années 30 d'ailleurs, à mettre des barrières tarifaires les uns par rapport aux autres, car ça conduit vraiment à ce qu'on appelle une dépression ou une déflation. On n'y est pas encore. Je pense qu'on va éviter cet aboutissement funeste. Mais en tout cas, ce n'est pas bon pour les commerces et ça veut dire que la prospérité globale du monde diminue.
Bruno Coleman, une réaction de l'un de nos auditeurs qui nous écrit sur le WhatsApp de l'émission, c'est Gabriel. Il nous dit, est-ce que les tarifs douaniers imposés au Canada, Mexique, Chine pourraient rediriger le commerce vers l'Europe et son grand marché unique? Est-ce qu'une telle abondance de marchandises pourrait compenser l'inflation créée par des tarifs douaniers contre l'Europe?
À certains égards, ça pourrait être le cas, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup d'entreprises se sont établies, notamment dans le domaine automobile au Mexique, dans le cadre des accords commerciaux entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Donc, en fait, ces entreprises se sont localisées là-bas pour éviter, on va dire, des droits de douane américains. Si maintenant, effectivement, les Américains confirment des droits de douane sur des produits mexicains, ça pourrait divertir une partie de leur production vers l'Europe, mais ce serait au détriment de la production européenne elle-même. Et donc, nous aurions un autre problème d'importation et de concurrence, puisqu'en fait, les Allemands, alors, seraient, dans le domaine automobile, peut-être pénalisés deux fois. Ceci étant, les barrières tarifaires de Trump sont assez fluantes et fluctuantes, puisqu'il a dit hier soir ou cette nuit qu'il allait revoir les barrières tarifaires dans le domaine automobile, ce qui veut dire qu'il est en train de nouveau de changer d'avis. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué le rebond des bourses américaines hier en fin de séance.
Est-ce que le boycott, c'est une solution, ou est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied, parce qu'il y a des usines aussi, par exemple, de Coca-Cola ici en Europe?
Mais oui, le boycott, c'est toujours une mauvaise idée, parce que aujourd'hui, les biens ne sont plus uniquement fabriqués de manière nationale et domestique. On vit dans une chaîne de fabrication qui est mondialisée. Et donc, en fait, on ne sait même pas quel pays on pourrait toucher par un boycott.
Alors, la vraie raison de ces droits de douane, selon vous, c'est sanctionner les pays qui ne luttent pas, comme il dit, contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde? Ou alors, non, il y a autre chose, c'est tout simplement s'asseoir sur les accords?
Il y a autre chose. Vous savez, moi, j'ai la chance, les arts de la vie ont fait que j'ai un quart de sang américain dans mes veines et que j'ai étudié dans le Midwest, vraiment dans ce qui s'appelle le centre, on va dire, industriel des États-Unis. Et il y a une réalité qu'il faut comprendre. Les Américains sont toujours maintenant isolationnistes, sont protectionnistes, et donc ont une vision en fait de leur pays qui doit prospérer au détriment des autres pays. Et quand les Américains ouvrent des marchés vers le reste du monde, c'est à leur bénéfice. Et aujourd'hui, les Américains sont convaincus qu'un excès de mondialisation les a appauvris, a créé des vagues de chômage, et donc tous les arguments sont bons pour protéger les États-Unis.
Une autre réaction, alors on revient un tout petit peu en arrière dans notre interview, c'est sur cette question de l'armement, du réarmement de l'Europe. En Belgique, Maurice nous dit, faire un emprunt pour solliciter l'épargne des citoyens ne serait-il pas une solution pour financer notre contribution à l'effort du réarmement?
Oui, je crois que c'est une très bonne question, et la réponse est que oui, il y aura un emprunt, évidemment. Alors, est-ce qu'il sera contracté au niveau européen, au niveau national, ça on verra bien. Mais il n'y a pas que l'emprunt auquel il faut penser, hein, parce qu'à partir du moment où on réarme nos économies, il y a peut-être la question de la réhabilitation de l'armée de métier qui doit être posée. Certains parlent de services militaires qui pourraient être volontaires ou obligatoires. Donc il faut bien comprendre que se lancer dans une logique de guerre a des conséquences directes sur nos générations, sur nos jeunes. Et je crois d'ailleurs qu'au-delà de savoir comment on va le financer, il faudra absolument un débat démocratique. Parce que moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que tout le monde est en train maintenant de la précipitation de parler de partage des armes nucléaires, mais on ne parle pas beaucoup de paix. Or, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que la Russie n'est pas du tout plus belliqueuse qu'elle l'était il y a 3 ans. Ce qui se passe, c'est que ce sont les États-Unis qui se distancient de l'Europe. Et en fait, ce phénomène-là, il faut bien l'analyser. De face, le niveau de guerre n'a peut-être pas augmenté, c'est simplement le niveau de protection européen qui s'est modifié. Mais donc, il faudra avoir un plan global, je pense, qui aille au-delà simplement de l'endettement de ces fameux 800 milliards d'euros.
Donc, vous voulez dire qu'au-delà d'un choc économique, il y a ce choc démocratique, c'est peut-être la fin d'un modèle ?
En tout cas, c'est la fin d'un modèle aux États-Unis. Les États-Unis ont été formés sur l'idée de ne pas vouloir de monarchie ou d'empereur, d'empire héréditaire. C'est un système qui est très particulier, qui a été créé à l'époque de manière tout à fait singulière. Aujourd'hui, ça change aux États-Unis. Ça devient une démocratie illibérale qu'on pourrait qualifier de mussolinienne. Dans nos économies, il y a aussi un problème de démocratie. Parce que se lancer dans une économie de guerre suppose un consentement à cette réalité, un assentiment de la population, et surtout une adhésion à des valeurs morales. Parce que parler de guerre, c'est bien, mais encore faut-il convaincre les gens que même une défense militaire, c'est bon pour la population. Et donc, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui déléguer à un nombre restreint de personnes des décisions qui impactent quasiment tout un continent.
précisément par rapport aux États-Unis, Trump a promis un nouvel âge d'or, mais finalement, oui. Le consommateur américain aurait plutôt le moral dans les chaussettes, là.
Oui, mais ce qui veut dire qu'aux États-Unis, on n'est qu'au début des changements. C'est-à-dire que l'âge d'or, ça se réfère en fait à la fin du 19e, début du 20e siècle aux États-Unis. D'ailleurs, c'est le modèle de Trump, mais ça veut dire que les bouleversements que Trump va mettre en œuvre vont être gigantesques. Il y aura bien sûr, des ajustements très importants dans le domaine monétaire, portant notamment sur le dollar. Il y aura sans doute des accords tout à fait inattendus. Et le vrai danger aujourd'hui des États-Unis, c'est qu'en fait, ils réinternalisent la violence de leur économie. Le système américain est naturellement violent. C'est chacun contre tous les autres. Et quand les Américains ont un surplus de violence intérieure, ils lancent des guerres à l'étranger, qui ne terminent d'ailleurs jamais. Aujourd'hui, par l'isolationnisme et le pacifisme américain, c'est comme si les États-Unis étaient en train de réintégrer une violence qui est inhérente à leur système économique, d'où la scène hallucinante qu'on a vue il y a deux jours, avec ce discours sur l'état d'union, qui a conduit d'ailleurs un élu à devoir être déporté de l'hémicycle. Donc, il se passe quelque chose de fondamental aux États-Unis, et ce n'est pas simplement Trump, c'est un pays qui bascule dans un autre régime idéologique.
Merci beaucoup Bruno Coleman d'avoir été avec nous ce matin, et merci à vous Daniel.